Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois.
Bonjour, Daniel Morfois, en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Christophe Abbas, médecin, spécialiste des neurosciences et ancien grand maître du Grand Orient de France. Christophe Abbas, bonjour.
Bonjour.
Mon cher Christophe, nous nous retrouvons comme convenu pour poursuivre notre échange sur l'intelligence artificielle. Ces promesses, mirifiques, évidemment, mirifiques, mais aussi, peut-être, nous allons le voir, ces dangers. Comme dans tous les feuilletons, je vous propose de revenir brièvement en arrière à l'épisode précédent et de nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'intelligence artificielle, ce que sont le machine learning, le deep learning, que notions que nous allons probablement mobiliser au cours de cet échange.
Alors, l'intelligence artificielle, nous l'avons dit, dont le paradigme date de 1956 et la dénomination que l'on doit d'ailleurs à McCarthy en 1956 lors du séminaire d'État à Dartmouth, c'est au fond l'ensemble des sciences et des technologies qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour rendre la machine intelligente ou d'une manière plus agnostique pour permettre à la machine d'accomplir des activités mentales de reconnaissance, de perception, de prise de décision, de jugement, de classification, de prédiction. Bref, de simuler ou d'émuler les activités mentales de l'être humain et dont il existe deux branches principales. L'intelligence artificielle dite symbolique qui s'inscrit dans le prolongement des travaux d'Alan Turing, et c'est l'informatique avec les systèmes experts. Et d'autre part, l'autre branche que l'on nommera a posteriori de connexionnisme ou de néoconnexionnisme, c'est-à-dire une branche qui s'intéresse au réseau artificiel de neurones, donc qui s'inspire de l'architecture de la physiologie des neurones, on avait vu que cela datait de 1943 avec McCulloch et Pitts, pour créer un modèle formel, évidemment très simplifié, du fonctionnement du système nerveux central, ce réseau artificiel de neurones, et qui auront la capacité d'apprendre par eux-mêmes. Et donc cette capacité d'apprendre par eux-mêmes va conduire au machine learning, où ces réseaux artificiels de neurones, confrontés à des exemples, par exemple des images de chats, de chiens, mais vont apprendre à discriminer et à classer ces différentes images. Donc ça, c'est la capacité de classification ou de ce qu'on appelle la régression, de prédiction des réseaux artificiels de neurones qui participent au machine learning. Et dans ce machine learning, il y a le deep learning. Ce sont des réseaux artificiels de neurones qui vont construire une représentation de plus en plus abstraite des données qui servent à l'entraîner et qui participeront, par exemple, à la reconnaissance des formes. On pense, par exemple, aux caméras utilisées dans les voitures autonomes pour reconnaître des piétons, des routes, d'autres véhicules.
Les obstacles.
Et des obstacles.
À quel progrès, puisqu'on évoque les véhicules autonomes dont on parle beaucoup, à quel progrès devons-nous nous attendre dans les années qui viennent ?
Alors, il existe des progrès inhérents au développement des algorithmes d'apprentissage et des architectures de ces réseaux artificiels de neurones qui vont permettre d'accomplir des tâches de plus en plus fines. Mais il y a deux grands progrès attendus. Le premier, du côté justement de l'informatique, c'est l'ordinateur quantique qui permettra de paralléliser des calculs et d'accroître les capacités calculatoires. Et d'un autre côté, qui nous reconduit du côté des réseaux artificiels de neurones, c'est l'intelligence artificielle qui utilisera des ordinateurs neuromorphiques. C'est-à-dire que là, les réseaux artificiels de neurones fonctionnent sur des ordinateurs classiques. Et donc, on perd un certain nombre d'avantages de ces réseaux artificiels de neurones. Et donc, le but, c'est de créer des architectures matérielles qui reproduisent les capacités et notamment les propriétés électriques du neurone. Donc on construit des nanoneurones en s'inspirant de l'électronique, de la spintronique, qui sont des petits composants qui vont reproduire justement le comportement sinusoïdal du signal du neurone. Et l'on va assembler ces nanoneurones pour créer une architecture qui se rapproche cette fois-ci de l'architecture neurobiologique. Et cela va entraîner une miniaturisation, cela va permettre de gagner en dépenses énergétiques, car un ordinateur, ça coûte beaucoup. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, l'énergie dévolue au parc informatique, à tous les réseaux sociaux qu'ils utilisent, c'est 10 à 15% de la production énergétique mondiale.
On considère que c'est plus que tous les véhicules et les avions qui circulent dans le monde.
Exactement, et cela va aller croissant. Et d'autre part, ces réseaux neuromorphiques auront une mémoire à l'intérieur même du réseau, comme les réseaux artificiels de neurones, et non pas comme l'ordinateur, une mémoire séparée, ce qui coûte énormément en énergie.
Ces progrès nous sont présentés comme de formidables vecteurs de prospérité, et sans doute le sont-ils d'un point de vue économique. On nous annonce aussi, on nous fait même des promesses de santé meilleure, garantie, et de vie éternelle ou quasi éternelle. Que pensez-vous de ces promesses, Christophe Abbas ? Ne sont-elles pas hasardeuses ?
Comme toute prédiction économique, et dépassant même le champ de l'économie, à moins d'être prophète, il est difficile de savoir jusqu'où cela va mener. Et il y a de toute façon une ambivalence sur laquelle nous reviendrons peut-être de ces technologies. En tout cas, d'un point de vue économique, il est clair que les prédictions actuelles disent que d'ici à 2030, par exemple, il y aura une augmentation du produit intérieur brut mondial d'environ 16 milliards de dollars, qu'il y aura une création d'emplois, alors accompagnée de destruction d'emplois, mais une augmentation du rendement, de la productivité, de l'efficacité, de la spécificité d'un certain nombre des tâches accompagnera évidemment ce développement économique majeur aux côtés des biotechnologies, des nanotechnologies, des sciences de la communication, cette intelligence artificielle. Par exemple, dans le domaine de la santé, on aura certainement des outils d'aide au diagnostic qui permettront de prioriser les urgences, de trouver des corrélations et de mieux diagnostiquer, voire de mieux pronostiquer l'évolution de maladies, de mieux adapter le traitement à la personne en intégrant des données de plus en plus grandes, par exemple des données génétiques, physiologiques, les antécédents familiaux, l'hygiène de vie. Donc, cette intelligence artificielle, si l'on prend ce domaine de la santé, va permettre la mise en place d'une médecine, comme on la qualifie, de prédictive, de préventive, de personnalisée et de participative, en interprétant quasiment en temps réel les données physiologiques et ainsi prédire éventuellement un certain nombre de maladies que l'on pourra mieux traiter et traiter plus à temps. Donc ça, c'est un progrès indiscutable.
Néanmoins, derrière ces progrès, de nombreux problèmes éthiques, sociaux et politiques vont se poser. La parfaite connaissance des hommes et des femmes, de leur santé, comme vous l'évoquiez, mais aussi de leur mode de vie, de leurs pratiques dans tous les domaines, ne nous conduit-elle pas à un contrôle social d'une efficacité quasi absolue ?
C'est en effet l'un des risques majeurs. Si l'on reprend la santé, à côté de ses aspects positifs, donc de diagnostic, de pronostic, plus sensible, plus spécifique, plus rapide, eh bien, en même temps, ces données majeures sur l'hygiène générale de l'individu pourront être transmises, par exemple, à des assurances, à des groupes mutualistes qui, disposant de ces informations personnalisées, pourront, par exemple, moduler les polices d'assurance en fonction des risques encourus et en fonction de la compliance du sujet à réguler sa vie pour éviter des maladies. Et donc, là, nous voyons que...
C'est la fin de toute solidarité. C'est une individualisation qui fait que nous ne sommes plus solidaires des uns et des autres, puisqu'on nous connaît individuellement et qu'on adapte nos polices d'assurance à nos caractéristiques, ou en tout cas aux caractéristiques de notre groupe. C'est une solidarité très restreinte.
Exactement. C'est-à-dire que la solidarité qui est fondée sur une ignorance statistique de ce qui va arriver à l'individu, là, est balayée en raison justement ici de ce profilage physiologique, si j'ose dire, pour la santé de l'individu, et donc d'une adaptation individualisée eh bien, de l'assurance qu'il aura contractée. Et donc, effectivement, il y a en même temps une responsabilisation individuelle du sujet. Et donc ça, c'est pour la santé, mais on peut le voir pour la publicité aujourd'hui, où il y a un véritable profilage psychologique, voire une anticipation comportementale, une exploration des grandes tendances populationnelles qui permet, eh bien, là encore, de cerner la psychologie individuelle de chacun et de chacune, voire de groupes de population. Et donc, le risque majeur de cette technologie correspond à ce que nous disions, c'est le profilage psychologique, c'est la prédiction comportementale, c'est donc le traçage de l'individu, y compris sa géolocalisation, à travers toutes les traces électroniques que nous laissons, eh bien, l'individu est à la merci, par toutes les informations qu'il laisse, eh bien, d'un certain nombre de grands groupes, voire du pouvoir politique. Et voyez toute l'ambiguïté, c'est que ces informations livrées par l'individu à travers ces prothèses qui seront interprétées par l'intelligence artificielle permettent à la fois de rendre plus confortable l'univers qui est le sien, d'anticiper eh bien, ses goûts, ses tendances, ses intérêts, mais en même temps l'enferme d'une manière très normative eh bien, dans la bulle de ses intérêts privés, et l'on va mettre à distance eh bien, tout ce qu'il y avait d'imprévisible, de hasard, de rencontre dans sa vie. Et donc,
puis d'altérité, parce que là, on baigne dans le même.
Exactement.
Le moteur de recherche trie des réponses, pas simplement par rapport à la question, mais par rapport aux articles que j'ai consultés, aux journaux que je lis, et la page, c'est une expérience célèbre, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais voilà, des étudiants au moment du Brexit, un professeur anglais avait fait faire taper le terme Brexit, et les étudiants s'étaient rendu compte que la première page n'était pas la même. Et suivant ce qu'ils avaient consulté auparavant et leur tendance à opter pour une position ou pour une autre, le refus ou l'acceptation de cette sortie de l'Union européenne.
Exactement. Donc il y a d'une part l'enfermement de l'individu dans le même, dans le soi, et deuxièmement la possibilité de modifier les comportements et la vie des individus parce qu'ils ont été d'abord prédits et en même temps parce qu'on va adapter les informations qu'on lui livre en fonction d'objectifs plus généraux qui lui échapperont. Et des études ont montré que l'on peut biaiser d'environ 20%, par exemple, les intentions de vote d'une population témoin.
20%, c'est bien au-delà, généralement, du delta qu'il y a entre un gagnant et un perdant.
Absolument.
C'est quelques milliers de voix, voire quelques millions, s'il y a de gros écarts et des populations importantes, mais très peu. Si je vous suis bien, Christophe Abbas, c'est la déconstruction complète du social et du politique que vous nous annoncez grâce à l'intelligence artificielle.
Oui. Alors, à côté de l'outil fantastique au niveau scientifique, au niveau de la santé, peut-être au niveau de l'écologie, au niveau des villes intelligentes, il faut voir que l'intelligence artificielle peut être un outil de domination sociale au service d'une société technocratique, libérale et libertaire, et dont le but, justement...
Libertaire ou libertarienne ?
Alors, libertarienne, en effet, je ne veux pas choquer un certain nombre de sensibilités, par exemple anarchistes, qui sont libertariennes, libertariennes et libertaires, mais c'est effectivement le libertarianisme au sens américain du terme,
oui. Hein,
donc qui est une forme très très particulière, très proche de l'anarcho-capitalisme, et qui peut utiliser cette intelligence artificielle, d'abord, évidemment, d'un point de vue économique, pour augmenter les rendements, la compétitivité, de la production, mais d'un point de vue politique, eh bien, remplacer progressivement les services publics, amener ce qu'on appelle avec un terme un peu compliqué, une désintermédiation de la société. Donc tous les corps intermédiaires vont disparaître, mais y compris l'État, ce qui permet l'avènement d'une société ultralibérale et une atomisation sociale toujours plus marquée, où l'on a enfermé dans ces bulles, si j'ose dire, narcissiques, de l'entre-soi, l'individu, et la gestion collective n'est plus le fait d'organisation politique, sociale, caritative, mais qui crée un lien social par une communauté de combat ou d'esprit, mais par des algorithmes qui, là, vont gérer de manière anonyme la société, la faisant glisser vers une espèce d'organisation orwellienne où l'individu, par délégation, par procuration, eh bien, se dépossède lui-même d'un certain nombre de décisions et de libertés. Et donc, nous allons, au fond, de la promesse des chantres technoprophétiques d'une émancipation de l'individu par ces technologies à une aliénation technologique au service de cette société technocratique, ultralibérale et libertarienne au sens américain du terme.
Oui, d'un monde meilleur, nous risquons de tomber à quelque chose qui se rapprocherait du meilleur des mondes, ou en effet du 1984 de Orwell. Christophe Abbas, merci de votre présence et de ces explications. Peut-être aurons-nous l'occasion d'approfondir et de revenir sur ces points. Avant de nous quitter, je souhaite attirer votre attention sur la troisième conférence internationale d'histoire de la franc-maçonnerie qui est organisée à la BNF les 14 et 15 juin. De nombreuses conférences vous seront proposées. J'y reviendrai probablement le mois prochain, le 5 mai prochain. Le titre, c'est « Des rites pour construire la fraternité ». Merci enfin à Souad Boukorsa et à Dany Journeau, notre réalisatrice. J'espère vous retrouver le 5 mai prochain. Bon dimanche.